Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec François Lessard et Jean-Philippe Marceau. Comme j'avais mentionné dans notre dernier épisode à nous deux, on voulait continuer l'étude de nos approches respectives, cette fois-ci en étudiant une parabole que Simon a choisie et qui pense qu'il montre bien les forces de son approche. Donc, il avait choisi la parabole du retour du fils prodigue. On va pas la relire au complet parce que c'est quand même long. Vous pouvez aller la regarder si vous vous en rappelez pas bien. C'est dans Luc 15, du verset 11 jusqu'à en fait la fin du chapitre 15. Juste pour rafraîchir la mémoire, les éléments importants, ceux qui la connaîtraient pas encore, je l'ai déjà dit, allez lire. Mais on parle de l'histoire d'un père avec deux fils. Le fils le plus jeune veut avoir son héritage tout de suite. Le père va accepter. Le jeune va aller dilapider tout. Une famine arrive éventuellement, puis le jeune n'a plus de nourriture. Il veut même aller manger la nourriture des porcs d'un homme pour qui il travaille. Et il décide de retourner vers son père, de se repentir. Il ne fait pas une très grosse profession de repentir, en fait. Là, on pourra sûrement y revenir. Mais quand le père commence juste à voir son fils arriver, il est fou de joie, le pardonne tout de suite, lance un banquet. Intéressant que le grand frère, lui qui n'était jamais parti, est un peu jaloux de ce qui se passe. Puis le père explique qu'il fallait se réjouir du fait que le petit était mort et qu'il est revenu à la vie. Donc, on va en discuter davantage aujourd'hui avec nos approches respectives. Puis, vu que c'était dit Simon, ben, je voulais te laisser commencer.
Oui, c'est vraiment une parabole que j'aime, mais qu'on peut avoir l'impression, surtout si on est chrétien depuis un certain temps, qu'on a entendu trop souvent, puis qu'on pense qu'on a déjà tout dit là-dessus. Mais comme toute parole de Dieu, si plus on y passe de temps, je pense, plus on découvre sa richesse, puis que c'est inépuisable. Les pères de l'Église disaient de Luc 15 que c'était l'Évangile dans l'Évangile. Donc, la bonne nouvelle au cœur de la bonne nouvelle, parce que le centre de la bonne nouvelle, c'est la miséricorde de Dieu. Donc, un amour, pas juste qui donne, mais qui va jusqu'à la perfection du don, c'est-à-dire qui pardonne, qui va même jusqu'à aimer ceux qui, pas juste ceux qui ne méritent pas, mais ceux qui déméritent, en fait, ceux qui devraient avoir une punition, mais on leur fait des cadeaux à la place. Et c'est vraiment ça le cœur de la bonne nouvelle. Et puis, cette parabole-là veut mettre ça en relief. Puis, si on l'aborde, disons, d'une manière plus générale, là, je pense qu'on risque de se recouper, mais on verra. Mm-hmm. Je dirais que c'est un schéma que les théologiens au Moyen-Âge appelaient de « exitus reditus », c'est-à-dire une sortie puis une rentrée mm-hmm. en Dieu. On pourrait parler de procession aussi et de conversion dans une terminologie plus chrétienne. Ou encore, on pourrait tout résumer en disant la récapitulation. Donc, on a ça en Éphésiens, là, que tout a été récapitulé mm-hmm. dans le Christ. C'est comme l'idée d'un cercle, encore une fois. C'est ça, la totalité se trouve dans cette histoire, dans cette parabole, la totalité de l'histoire du salut. Puis elle reflète aussi notre histoire à chacun. Puis on pourrait dire, bon, ben même toute réalité, en fait. Ce serait presque, là, je sais pas, j'ai essayé de parler en termes symboliques, la structure de l'être, que ce schéma exitus reditus. Pourquoi? Parce qu'on voit un fils qui sort de la maison du père. Puis là, on pourrait en parler, il se passe des choses qui l'amènent à revenir à la maison du père. Puis si on est attentif, on va voir que le fils cadet, lui, pêche contre ce schéma-là de l'être, c'est-à-dire soit il refuse le mouvement, ou en fait, sans s'en rendre compte, lui vit le même mouvement, mais d'une manière plus cachée et subtile. Puis je pense qu'avant de plonger dans la parole de Dieu, je dirais que ce schéma-là, il faut d'abord reconnaître qu'on le voit partout dans la nature. Donc le cycle de l'eau, ça ressemble à ça un peu aussi. Donc l'eau, mettons qu'on dit que la base, c'est l'océan. Elle va s'évaporer, etc., retomber, pour recouler par les fleuves et les ruisseaux et les fleuves jusqu'à l'océan. Donc, on voit ce schéma-là. Mais à travers son chemin, le chemin, la course de l'eau, elle va donner la vie. Donc, c'est pas juste du mouvement pour du mouvement. C'est par ce cycle-là, on engendre la vie. On pourrait dire la même chose du soleil et de la lune, en tout cas d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire qu'on voit le soleil et la lune à chaque jour se lever et se recoucher. Mm-hmm. C'est comme sortir de sa maison puis retourner dans sa maison, mais par leur passage, le soleil et la lune permettent la vie, permettent la connaissance, en fait. Encore plus que la vie biologique, là, ils permettent qu'on connaisse. Sans lumière, on peut pas... En tout cas, nous, les hommes, on est extrêmement limités mm-hmm. dans la connaissance. Même chose, une plante. Une plante, ben, elle va sortir de la terre. Et puis, elle va croître, elle va produire, elle va s'extérioriser de plus en plus jusqu'à produire la fleur et le fruit. Le fruit va s'extérioriser totalement en tombant et même en mourant. Et puis finalement, ben, il retourne à la terre et là, il engendre comme ça une vie, mais une vie surabondante, généralement 10 pour 1, 100 pour 1, ça dépend des fruits. Puis même notre respiration, on pourrait dire que c'est un peu le même schéma, donc inspirer, expirer, encore là, un mouvement d'entrée et de sortie qui permet toujours d'engendrer la vie. Donc, ça, c'est comme, je sais pas si toi, tu observes la même structure un peu dans l'univers, là, physique au moins, là.
Ouais, ouais. Ben, même au niveau de l'esprit humain, on a quelque chose comme ça aussi où on est tout le temps en train d'osciller entre l'unité et la multiplicité. Là, où disons que je m'en viens, ou même on peut prendre la conversation qu'on est en train d'avoir. Là, disons, il y a un but à la conversation, que c'est d'élucider un texte, mais pendant qu'on parle, on est aussi en train de faire une multiplicité de choses. Donc, de regarder à tel endroit, de dire tel mot, d'écouter telle autre personne, on est quand même un peu attentif à ce qui se passe autour dans l'environnement si jamais il arrive quelque chose de bizarre. Donc, on est toujours en train d'osciller entre un but précis puis une multiplicité de choses qu'on fait. Puis on va dans cette multiplicité-là pour dire des choses, pour écouter des choses. Ensuite, on revient. Puis on fait toujours ça de façon inconsciente. Au niveau de la structure globale cosmique, ce qui me faisait allumer tout de suite qu'il y avait ça qui se passait dans ce texte-là, c'est l'histoire des deux frères. C'est assez commun dans la Bible où il va avoir deux frères, un aîné, un plus jeune.
Puis, Abel et Caïn, par exemple.
Ouais, Abel et Caïn, Ésaü et Jacob. Puis d'ailleurs, il y a toujours la structure, là, avant Jésus, où c'est toujours censé être l'aîné qui est comme le bon représentant de son père. Puis il arrive un problème, puis c'est finalement le plus jeune qui va le faire. Donc,
David étant le plus jeune de sa fratrie aussi, Joseph aussi.
Exact. Mm. Puis Jacob qui va comme usurper Ésaü. Dans ce cas-ci, pourquoi je dis que c'est cosmique aussi, c'est que d'habitude, ce qui se passe, c'est une structure qui n'est pas juste liée au fils d'un même père, mais habituellement, ce qui se passe dans la Bible, quand une dualité est introduite, il y a un côté qui va être comme la droite qui représente l'identité qui vient au-dessus de cette identité-là. Puis ensuite, il y a la gauche qui va comme représenter le reste. Fait que dans le cas des frères, ben, tu vas voir le premier, disons l'aîné, que c'est lui la droite qui est censée représenter l'identité de son père. Puis ensuite, le deuxième frère qui va être plus la gauche, qui va couvrir comme tout le reste. Toutes les choses qui vont être construites vont avoir cet aspect-là. Peut-être mentionner deux exemples déjà dès la Genèse. Là. Dieu, au début, Dieu crée le ciel et la terre. Puis après ça, dans la terre, ben, il va créer des images du ciel. Il va les créer comme les étoiles. Puis après ça, dans la terre, il va créer aussi comme la terre puis la mer. Fait qu'il va toujours avoir comme un représentant de l'identité supérieure quand tu descends dans un niveau plus bas. Puis ce qui se passe, il y a un problème avec cette structure-là, gauche-droite, dans l'histoire de la Bible dans l'Ancien Testament, qui est juste résolue par Jésus, où, justement, comme je mentionnais, ce ne sera pas le fils aîné d'habitude qui va réussir à faire la bonne représentation de l'identité qu'il était censé faire. D'habitude, il doit se faire remplacer pour une raison ou pour une autre par le plus jeune. Puis, Saint-Maxime le Confesseur parlait des péchés de la droite puis des péchés de la gauche comme étant différents, mais comme allant s'appeler l'un l'autre ensuite dans nous. Le péché de la main droite de la personne qui représente l'identité, ça va être d'être trop rigide, pas miséricordieux, de ne pas vouloir accepter la multiplicité.
Le pharisien, trop dans la justice.
C'est ça, exact. Puis, à l'inverse, le péché de la main gauche, ben, ça va être d'aller trop dans la multiplicité, puis d'oublier l'identité d'où tu viens.
On n'est pas loin de la droite et de la gauche en politique encore aujourd'hui.
Ouais, c'est similaire, mais c'est un symbolisme qui est très, très naturel là, qu'on utilise sans s'en rendre compte.
Quoi qu'on a une droite libertarienne aujourd'hui, très individualiste aussi, qui pourrait dire on s'en fout des règles, que chacun fasse ce qu'il veut, là, mais en tout cas, grosso modo, ça ressemble encore à ça.
Ouais, ouais, la structure fonctionne quand même globalement. Même dans le cerveau, il y a disons, l'hémisphère. Là, c'est inversé, là, parce que la main droite est reliée à l'hémisphère gauche, puis la main gauche à l'hémisphère droit, fait que c'est inversé quand tu parles des hémisphères, mais l'hémisphère gauche, qui est plus le symbolisme de la droite, lui, il est bon pour la logique, lire des textes, avoir des structures, versus l'hémisphère droit, qui est plus le symbolisme de la gauche, lui, il est plus expansif, global, voit les structures tout d'un coup, mais moins précis. Donc, C'est assez universel comme structure.
On voit la même chose avec dans le Nouveau Testament, les Juifs qui représenteraient la droite, qui rejettent le Christ, alors finalement que les païens qui seraient comme les derniers en importance sont ceux qui l'accueillent, puis c'est finalement Saint Paul et les païens qui vont vraiment lancer l'Église à travers le monde.
Exact. Justement, en parlant de Saint Paul, c'est un bon exemple pour se rappeler de la gauche et de la droite. D'habitude, Saint Pierre à droite, Saint Paul à gauche, où Saint Pierre, c'est lui qui représente le Christ. Puis ça a des bons côtés.
L'autorité, la loi.
Exact. Et c'est aussi lui qui va parfois avoir trop de fierté, qui va dire « Ah, ben, tu ne devrais pas mourir, Jésus. » Puis là, après ça, tout de suite après que Jésus a dit que Saint-Pierre était la roche sur laquelle il a fondé l'Église, il dit que Saint-Pierre, éloigne-toi de moi, Satan. Puis à l'inverse, Saint-Paul, c'est lui qui va aller aux périphéries. Il se vante d'être le plus bas, d'être un avorton. Il va faire un paquet d'inversions, Saint-Paul, pour aller chercher tout le monde. Tu vois cette paire-là qui opère. C'est une structure très globale.
Ouais, tu voulais continuer ou
Parce que tu mentionnais justement les Juifs et les païens, puis je me demandais si tu voyais ça là-dedans aussi.
Oh, oui, ben, je pense même que c'est le premier sens littéral, c'est-à-dire qu'au début, ça dit clairement au début du chapitre 15 là, qu'il y a des publics. Que dans le fond, Jésus s'adresse aux pharisiens ici. Donc, il s'adresse vraiment. À ceux qui sont justement trop dans la justice et puis qui seraient fermés à accueillir soit les Samaritains ou même les païens. Et puis il veut d'une certaine manière le Christ les réveiller en les identifiant au Fils aîné. Donc ça, je pense, c'est l'interprétation la plus classique de base. Maintenant, moi, je voulais en venir avec mon cycle de sortie et retour ou de procession et de conversion. C'est de voir aussi que ça s'applique dans tout le mystère du salut. Donc, ça s'applique d'abord dans la Trinité même. Dans la Trinité, il y a deux processions qui engendrent le Fils et l'Esprit. Ces processions fonctionnent. Bon, il n'y a pas de mouvement là, au sens strict parce qu'on n'est pas dans un être matériel, puis il n'y a pas de temps, mais c'est éternel. Mais ces processions engendrent des personnes et fonctionnent sous le schéma aussi d'un retour parce que le Fils, c'est la connaissance que Dieu a de lui-même, va nous dire saint Augustin. En tout cas, c'est la meilleure image pour comprendre, là, autant que ces images-là, de manière analogique, signifient quelque chose. Puis l'Esprit, c'est l'amour que Dieu a de lui-même. Donc on voit encore que là, on est dans un schéma de cycle d'une certaine manière, puis ça engendre des personnes, cette connaissance et cet amour de soi-même. Donc ça engendre la vie à son sens le plus suprême, parce que ça engendre la vie divine. Bon, ici il faut faire très attention quand on parle de la Trinité, là il y a un seul Dieu, c'est pas des engendrements qui se passent comme une création est dans le temps, là c'est éternel tout ça. Donc Dieu fonctionne comme ça. Après ça, tu as des processions ad extra, que sont la création, l'incarnation. Donc, dans la création, encore là, Dieu manifeste son être autant que possible à travers la diversité et l'unité des êtres. Et puis, l'objectif de la création, quand même, c'est quand même de revenir à Dieu, d'être uni à Dieu. Après, on sait qu'à travers les anges et les hommes, les créatures intelligentes, il y a une rébellion, donc il y a une séparation de Dieu. Et le Christ aussi, dans sa vie, manifeste ce mouvement-là. Donc, il est envoyé, il est sorti du sein du Père par l'incarnation. Et puis, finalement, toute sa mission, c'est tranquillement de revenir au Père jusqu'à l'ascension, mais en amenant avec lui tous les hommes. Et donc, on voit, c'est ça, dans le Christ, à la fois par sa rédemption, sa résurrection, son ascension, son mouvement de retour. Puis, on a la même chose quand on regarde Israël, à plusieurs endroits, mais autant l'Exode, l'exil en Égypte, et retour en terre promise, même chose, l'exil à Babylone, retour à Jérusalem. Bon, là, on pourrait extensionner même dans l'histoire. Il y a plein de mouvements comme ça dans toute l'histoire du salut. C'est toujours, quand on lit l'Ancien Testament, c'est presque toujours la même histoire. Le peuple se rébelle contre Dieu, puis finit par revenir par l'intervention des prophètes qui réveillent sa conscience, on pourrait dire. Et puis l'Église, je pense que l'Église, c'est la même chose. On a parlé des Juifs et des païens, il y a quelque chose de ça aussi. Est-ce qu'il dit qu'à la fin des temps, il y aura une conversion massive des Juifs au Christ? Donc, on verra probablement ce retour des Juifs dans l'Église, en tout cas selon la révélation. On pourrait imaginer la même chose avec les schismes orthodoxes et protestants. Il pourrait y avoir peut-être même de notre vivant, qui sait, ou en tout cas, c'est pas impossible qu'il y ait un retour massif de plusieurs personnes issues des communautés orthodoxes ou protestantes. Puis là, ce sera intéressant de voir si les catholiques vont se comporter en, en fils aîné. Ben là, quand même, pourquoi qu'on fait une fête, pourquoi qu'on leur donne des avantages? Nous, on a toujours été fidèles, on a toujours été là, parce que c'est sûr que si on les accueillait, il nous faudrait accepter d'être bouleversés un peu dans nos habitudes pour les accommoder jusqu'à un certain point. Puis, dans nos vies, je pense que c'est la même chose. Nos vies, ce n'est qu'une succession de rébellions, de séparation de Dieu, de conversion. C'est ça. Puis on est vraiment dans le schéma exil-exode. Puis je dirais que, juste pour aller une nuance rapidement, c'est que l'exode, c'est vraiment volontaire. Alors que l'exil, c'est involontaire, c'est l'avantage subi, l'autre est l'avantage choisi. Donc l'exode, le peuple hébreu s'exode au désert pour quitter l'Égypte. Donc ils veulent quitter un mal dans l'espérance de la terre promise. Alors que l'exil, par exemple à Babylone, ben ils sont chassés là, de Jérusalem. Donc là c'est vraiment subi, c'est comme une peine, une punition. Mais on pourrait dire que toute notre vie, qu'on le veuille ou non, qu'on le choisisse ou qu'on le subisse, sera une succession d'exil et d'exode, consenti ou pas. Et puis, ils peuvent être volontaires, involontaires, positifs ou négatifs. Donc, mettons que je vois rapidement des exemples volontaires et positifs. Pour manifester la bonté de Dieu, on en a comme la création, l'incarnation, la rédemption, l'évangélisation même, le fait d'enseigner aux autres des vérités importantes. C'est une sorte de sortie de soi positive. L'Eucharistie, c'est intéressant. L'Eucharistie aussi a ce schéma d'exitus reditus. D'une certaine manière, tout sacrement, mais de manière encore plus forte, l'Eucharistie, c'est comme Dieu qui s'incarne, on pourrait dire, ou qui se rend présent dans la matière pour ensuite entrer en nous, pour que nous faire ramener nous, réunir à Dieu, mais réunir d'une manière nouvelle, c'est-à-dire tous ensemble, comme une famille autour de la table rassemblée, là. Donc on a ça dans l'Eucharistie, on a ça aussi dans toutes les œuvres de charité qui sont des sorties de soi. Donc bref, c'est tout ce qui nous descend de nous-mêmes, aller vers autrui, mais finalement pour mieux revenir à soi transformé. Puis, des fois, ça va être négatif, le péché, la méfiance, l'éloignement, la séparation de Dieu. Donc là, c'est volontaire, mais négativement et non positivement. Ça peut être extérieur, comme le fils cadet. C'est-à-dire que là, c'est manifeste, il cherche le plaisir, il cherche son autonomie, tout ça. Ou ça peut être intérieur, parce que je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que le fils aîné vit aussi son exil. Comment? Ou son exode, c'est qu'en fait, il est resté à la maison extérieurement. Mais intérieurement, il n'était pas vraiment uni à son père. Lui, ce qu'il voulait de son père, ce n'était pas l'amitié ou la relation personnelle à son père. Ce qu'il voulait, c'était les biens de son père. Il restait comme pour les avantages matériels, pour les richesses, pour le confort, pour la renommée, pour être un bon petit gars qui respecte les règles, par exemple. Donc, dans le fond, il n'était pas décentré de lui-même. Ce qu'il cherchait, c'était réussir sa croissance personnelle, réussir sa vie. Il n'était pas vraiment dans la communion, en fait. Donc, c'est un hypocrite. Puis là, c'est pour ça que ça fait penser aux pharisiens. Là. C'est pour ça que Jésus raconte ça aux pharisiens. Vous semblez dans l'église, vous semblez au centre du temple, mais votre cœur n'y est pas. Vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. C'est comme quelqu'un qui va à messe tous les dimanches, mais parce que la musique est belle, parce que c'est son club social, parce que c'est bien vu. Bon, peut-être moins au Québec, mais il y a des pays où c'est bien vu là, d'être à la messe. Donc, il n'est pas là intérieurement. Il est exilé intérieurement, subjectivement, du Père, de Dieu. Puis, par contre, il peut aussi avoir des exodes ou des exils plutôt involontaires. Ils peuvent être négatifs ou positifs aussi. Donc, les involontaires, ça va être, mettons, la maladie, la souffrance, la guerre, toutes des choses que tu n'as pas choisies, que tu subis. Sauf que ce qui est intéressant ici, c'est que toutes ces choses involontaires qu'on subit, qui nous sortent de nos projets personnels, de notre confort, de comment nous, on voulait que notre vie se passe, s'ils sont vécus avec le Christ, dans la charité, elles peuvent tourner toujours à notre avantage. C'est un peu la grande révélation chrétienne. Aucune souffrance est absurde et vaine si elle est vécue avec le Christ. Finalement, elle va devenir le moteur de retour en Dieu. Pour avoir de l'involontaire positif, comme un appel vocationnel. Donc, si ce n'est pas une souffrance, mais tu es appelé quand même à sortir de toi. Mais ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est comme si c'est un appel extérieur. Tu es libre d'y répondre ou pas, là, par contre. Ou encore, tomber amoureux. Je trouve que ça ressemble un peu à ça. C'est comme... Il y a des choix à faire, mais il y a quand même une rencontre qui a été produite par Dieu Tu as le choix de dire oui ou non, mais si tu dis oui, ça va t'amener à sortir de toi dans le mariage. Tu vivras plus pour toi-même, mais pour autrui. Mm-hmm. Donc, bref, en tout cas, c'est ça. J'ai essayé de montrer comment toute la structure du monde, toute l'histoire du salut, toutes nos vies va être dans des mouvements comme ça de sortie de soi, volontaire ou involontaire, dans la grâce ou dans le péché. Mm-hmm. Puis éventuellement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de revenir à soi et en Dieu. Mm-hmm. Puis le point vraiment majeur, je trouve, dans cette parabole, c'est le verset pivot qui dit que le fils cadet entre en lui-même. Donc, je sais pas si tu l'as sous les yeux. C'est
quand il est encore en train de servir en exil?
Exactement. Donc, c'est le verset 17. « Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Mm-hmm. » Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc ici, il rentre en lui-même. Encore là, tu vois, c'est comme un micro exitus reditus, dans le fond. Il était hors de lui-même dans la vie de plaisir, d'aventure. Il dilapidait l'héritage. Donc, il est vraiment hors de soi-même. Mm-hmm. Et puis finalement, par un retour en lui-même, c'est là que s'opère le pivot, la conversion, donc le changement de direction. Donc il était toujours dans un mouvement d'éloignement de Dieu, du Père, et puis après être rentré en soi-même, il y a une prise de conscience, et là, il va changer son mouvement, dans le fond, pour boucler, pour exercer le cercle qui doit être fait. Bon, là, à ce moment-là, c'est pas encore parfait, là. Et dans le fond, il y avait eu faim avant ça. Mm-hmm. Puis ça, c'est intéressant parce que au début, il voulait être tout seul. Donc, dans le fond, moi, je vais être heureux puis libre, mais par moi-même. Puis je demande l'héritage. Ça veut dire, j'aimerais mieux que tu sois mort parce que normalement, l'héritage, c'est quand l'autre est mort. Mm-hmm. Donc, dire, je donne-moi tout de suite mon héritage, c'est comme, j'aimerais donc mieux que tu sois déjà mort, papa.
En plus, il s'en va, il ne le verra plus.
Exactement. Il s'en va le plus loin possible pour ne même plus y penser, en fait. Et quand il a faim, c'est comme un premier don de Dieu, la faim. Mm-hmm. Tu réalises que tu as besoin des autres. Tu n'es pas autosuffisant, tu n'es pas autonome. Autonome, ça veut dire se donner à soi-même sa propre loi. Et donc, la faim est un premier don de Dieu, mais ce n'est pas suffisant parce que sa première action, c'est « OK, j'ai faim, mais je vais encore essayer par moi-même. Mm-hmm. Donc, je vais me vendre, je vais devenir un employé, je vais travailler, puis je vais souvenir par moi-même à mes propres besoins. Puis, ben, finalement, ça ne marche pas. Mais vraiment, là où il y a le point tournant, c'est qu'il réalise qu'il est responsable de ce que lui manque. Donc, il ne fait pas juste réaliser qu'il y a une souffrance en lui, qu'il y a un manque, mais il réalise qu'il est lui-même la cause de la misère dans laquelle il s'est mis. Donc, il s'est mis dans la merde, puis finalement, il se dit, ben, je vais me sortir de la merde par moi-même, mais finalement, il se retrouve dans la merde de porc, ce qui est l'impureté absolue pour un juif. Puis là, quand il touche le fond du baril, c'est là que ses yeux s'ouvrent, sa conscience se réveille. Dans le fond, c'est moi, là. C'est moi le problème dans tout ça. Puis à partir du moment, quand on réalise qu'on n'est pas victime, mais qu'on est coupable, c'est là que le mouvement de retour va commencer à s'ancrer. Puis moi, ça a été un peu aussi l'histoire dans ma vie. Ça a été de dire qu'avant ma conversion, je pensais que le mal dans le monde, c'est toujours la faute des autres. Mm-hmm. C'est les syndicats, c'est le gouvernement, c'est les capitalistes, c'est les médias, c'est mes parents, etc. Mais c'était pas moi, dans le fond. Puis le jour que tu réalises que la cause première, peut-être pas unique, mais première de ton malheur, c'est toi-même, puis ta victimisation, ben, c'est là que vraiment tu te rends compte que même si on changeait toutes les structures du monde, si toi, tu as un cœur corrompu, si tu es un voleur, un menteur, un manipulateur, dans une belle structure, un beau système politique, tu vas venir corrompre ce système-là. Donc oui, améliorons les structures et les lois du monde, j'ai rien contre ça, mais commençons par convertir nous-mêmes le cœur. Puis si tout le monde était converti dans une structure très imparfaite, ça ferait un très, très bon pays. À l'inverse, toutes des cœurs corrompus dans un super bon système, le système à lui seul, autrement dit, c'est l'erreur des marxistes, là, de penser que le système à lui seul va convertir les cœurs. Alors que c'est plutôt les cœurs convertis qui vont produire le bon système.
Je trouve ça vraiment intéressant quand tu vois la cosmologie derrière ça, derrière l'aspect rédempteur de l'incarnation, disons. C'est pas quelque chose que je vois si souvent dans l'approche symbolique, là. D'habitude, ce que je vois plus, c'est on va montrer, c'est comme cosmologique en premier, je dirais, là, avant d'être moral, là, où on va montrer qu'il y a une certaine cosmologie qui est décrite dans la Genèse, puis qui est brisée par la chute, puis ensuite, il faut comme réparer ça, puis une des conséquences, ça va être moral. C'est vrai qu'il y a la rédemption, mais c'est pas ça qu'on met de l'avant en premier. Fait que ça, je pense que ça a quand même des conséquences sur comment... J'ai pas entendu très souvent... Peut-être jamais, disons, une lecture plus cosmique de ce texte-là. Il y avait un truc gauche-droite que je t'ai mentionné, mais c'est pas, disons, en lien avec l'aspect de rédemption spécifiquement de ce texte-là. Mais je serais curieux que tu expliques un peu plus c'est pourquoi, de ton côté, tu vois que le but de la création, c'était la rédemption.
Ouais, ben, dans le fond, quel est le but de toute chose? C'est un peu ça ta question. Dieu, un principe qu'on a évoqué dans notre dernière conversation, c'est que tout agent est nécessairement la fin de son action. Donc, un agent, c'est un être libre. C'est pas juste quelque chose qui bouge. C'est vraiment, pour faire une action au sens fort du mot action, c'est qu'il faut que ça vienne d'une décision. Donc, un agent agit au final toujours pour lui. Mais ça peut être fait de manière égoïste ou bien, là. Dans le fond, tu sais, je pourrais donner de l'argent à une femme pour essayer de coucher avec. Ça, ce serait au final pour moi, mais pas pour une juste intention. Ou je pourrais lui donner de l'argent parce que je vois sa misère, je suis ému, puis je veux vraiment l'aider. Mais au final, c'est pas de dire que c'est complètement séparé de moi, parce que moi, ça me transforme de faire ce don-là. Et moi, ça me donne la joie ou du bonheur de me décentrer de moi-même et d'engendrer la vie ou de diminuer la misère dans le monde. Donc, on agit toujours en vue de notre bonheur. C'est une autre manière de le dire. Donc, tout ce que Dieu fait est au final en vue de lui-même, mais pas de manière égoïste. Et comme Dieu est déjà parfait, Dieu n'a pas besoin de... Lui, quand il fait quelque chose, ce n'est pas pour croître, pour faire de la croissance personnelle. C'est davantage pour manifester. Donc, la seule chose qu'il peut accroître, c'est quelque chose d'extérieur à lui-même. En lui-même, il est déjà parfait, mais il peut davantage manifester son excellence, sa bonté, sa beauté. Et donc, on le voit déjà dans la création. Chaque créature et l'ensemble de toutes les créatures dans leur harmonie reflètent quelque chose de Dieu. Chaque créature, d'une manière différente, reflète une perfection divine différente. Donc, on peut dire que, de cette manière-là, le but de la création, c'est de manifester Dieu. Maintenant, Dieu, son suprême degré de bonté, comme j'ai dit au début, qui est exprimé dans cette parabole-là, c'est la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on pourrait voir 3 degrés à l'amour. Le premier, c'est la justice. Rendre à chacun son dû, c'est déjà être une bonne personne. Un bon employeur qui respecte les règles, qui paye les employés, un bon mari qui fait ce qu'il faut pour sa femme et ses enfants, c'est la base de la bonté. Puis il y a bien du monde qui n'arrive même pas à faire ça aujourd'hui, juste respecter en justice ce qui doit être fait. Puis le deuxième degré, c'est la libéralité, c'est-à-dire donner gratuitement, même ce qui n'est pas mérité. Parce qu'au niveau de la justice, c'est donnant-donnant, c'est au niveau du mérite. Puis la libéralité, ben là, dans la création, on est tout à fait dans la libéralité. Tu sais, avant d'exister, tu ne mérites rien. Donc, on est totalement dans un don gratuit. Des parents qui engendrent la vie, un enfant, mais enfin, il n'a pas mérité d'avoir la vie. C'est un don purement gratuit. Et puis, ben, Dieu fait ça aussi énormément, d'abord en créant. Par contre, il y a un suprême degré de bonté qui n'est pas juste de donner à ceux qui méritent, donner à ceux qui ne méritent pas, mais comme j'ai dit tout à l'heure, donner à ceux qui déméritent. Et ça, c'est aimer ses ennemis. Puis ça, c'est vraiment le cœur de l'Évangile. Or, il y avait une seule possibilité, ben, si tu en connais d'autres, tu me le diras, mais moi, je n'en vois pas d'autres, pour que Dieu puisse manifester qu'il était amour au point d'aimer ses ennemis. C'était de créer des êtres qui pourraient devenir ses ennemis, mais qui pourrait se convertir et redevenir ses amis. Pour ça, ça prend un mélange de deux êtres, vraiment un mélange bizarre de deux êtres. Ça prend des êtres intelligents, parce que seuls des êtres intelligents peuvent faire des choix libres, peuvent être des amis et non des robots, et peuvent aussi refuser l'amitié. Et ça, on avait déjà ça avec les anges. Mais le problème, c'est que les êtres immatériels comme les anges ne peuvent pas changer. Ils se fixent dès l'instant de leur création, l'instant qui suit, ou en tout cas c'est dur à parler hors du temps, là, ils font un choix pour ou contre Dieu, et puis là ils se fixent de toute éternité dans l'amitié ou l'inimitié de Dieu. Et donc Dieu a inventé des êtres qui sont à la fois spirituels et matériels, on est les seuls cas connus, les êtres humains, pour qu'on puisse, oui, être dans une relation personnelle, d'amitié, oui, être libre, oui, faire le choix d'accepter ou de refuser Dieu, mais qu'on puisse changer d'idée, qu'on puisse se convertir et même à de multiples reprises. Mm-hmm. Que donc Dieu puisse exercer son pardon, sa miséricorde. Il puisse donner une surabondance d'amour, de dons à des gens qui le rejettent, qui désirent même le tuer, mm-hmm. en fait. Et voilà la seule manière que Dieu pouvait manifester à quel point il était bon, jusqu'où il était bon, jusqu'à aimer ses pires ennemis. Et c'est ce que le Christ manifeste le plus parfaitement sur la croix. Mm-hmm. Puis il va même dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc c'est comme une des paroles suprêmes de tout l'Évangile. Et c'est même ce qui explique la création sensible, la création matérielle, non humaine. Parce que pour créer une intelligence liée à de la matière, donc changeable, ça prenait une intelligence avec un corps. Mais pour un corps, ça prend tout le reste du cosmos pour que le corps puisse vivre. Ça prend des animaux, des plantes, une terre, des étoiles, mm-hmm. Tout ça, ne serait-ce que pour faire vivre le corps et tout l'appareil cognitif aussi, dont on est dépendant, parce que notre connaissance, nous, est dépendante des sens, de l'imagination, de la mémoire qui sont liés à notre cerveau, qui sont matériels, mm-hmm. même si notre âme et notre intelligence et notre volonté étaient immatérielles. Et donc, il a créé tout le cosmos matériel en vue de l'intelligence humaine, cette intelligence très particulière qui peut se convertir et accueillir la miséricorde. Bref, donc ça explique un peu le mystère du mal aussi. Parce que des fois, on dirait « Ah, mais Dieu aurait pu faire un monde pas de mal. » Tu sais, on peut imaginer ça, un monde où il n'y avait pas de mal. Oui, mais dans un tel monde, le degré suprême de la bonté divine n'aurait jamais été manifesté. Dieu aurait été miséricordieux en lui-même, mais il ne l'aurait jamais montré, il ne l'aurait jamais exercé en réalité. En permettant le mal et en sauvant et en aimant c'est ceux qui ont perdu confiance en lui, qui se sont devenus ses ennemis, ben voilà que la gloire de Dieu atteint son degré suprême possible.
Mm-hmm. C'est bon. Je trouve ça assez convaincant. Disons, l'idée que la création a été faite par amour, ça c'est assez répandu, je pense,
du côté de la proximité. Pas sûr même qu'on a besoin de la révélation pour... C'est plus facile avec la révélation, mais je pense que par la raison seule, on peut comprendre que Dieu étant parfait, quand il fait quelque chose, il le fait par bonté et par amour.
Ouais, je pense qu'il y avait déjà des néoplatoniciens qui avaient dit ça. Je ne sais pas à quel point c'était, bien explicite chez eux, puis je ne sais pas à quel point il avait été influencé par des juifs puis des chrétiens aussi, en fait, qui ont écrit ça. Mais certains des néoplatoniciens... je pense que c'est après l'incarnation, qui écrivait en disant que ben, Dieu il est parfait en lui-même, il n'a besoin de rien, mais par amour, il peut créer quelque chose, une création distincte, qui va laisser libre de l'aimer. Je pense que c'est devenu le plus clair dans Saint-Denis l'Aréopagite, qui reformule ça de façon plus chrétienne puis plus claire, au moins. Mais, disons, je me rappelle pas d'avoir vu là-dedans l'aspect... aimer dans le démérite. Je trouve que ça explique bien la création, que Dieu crée quelque chose de distinct de lui-même, qu'il laisse libre pour que cette création-là lui retourne par amour. Ça, je le vois, mais l'idée spécifiquement que, disons, le plus grand amour que tu peux avoir dans tout ça, c'est... Peut-être, en fait, c'est ça la différence que je trouve intéressante. D'habitude, la façon dont j'en entends parler avec ce que je viens de dire avec Saint-Denis, c'est plus Dieu voulait que la création retourne à lui. C'était ça ouais. l'important. Puis là, ce que je t'entends dire, c'est Dieu voulait que la création retourne à lui, mais la façon la plus élevée dont ça pouvait se faire, c'est que la création retourne à Dieu après que Dieu ait montré qu'il aimait la création même en démérite.
C'est ça. Parce que c'est comme aller chercher la personne qui est en train de courir en direction opposée à lui. À la différence de donner un tapis roulant à celui qui marche déjà vers lui, ça, ce serait comme aider celui qui mérite déjà en lui donnant un peu plus. Ou le statique en l'attirant. Mais là, on a le gars qui court dans l'autre direction, puis il trouve le moyen de le retourner, puis d'aller le chercher tout en respectant sa liberté. C'est le mystère de la grâce ici, là. Ou encore un autre exemple qui va être donné, c'est la libéralité, ce serait construire une tour, mettons. Mais la miséricorde, c'est la tour a été détruite, il y a un fossé, il y a un trou qui a été creusé. Puis on part du trou, on part du négatif, dans le fond. Ou peut-être un meilleur exemple, ce serait un père qui donne de l'argent de poche à son enfant, tu sais, il est libéral. Ben, d'avoir, donc, un père qui donne un salaire à son enfant qui tond le gazon, il est juste. Père qui donne de l'argent de poche, ben, il est vraiment libéral. Mais un père que son fils vient de casser les vitres de la voiture, puis qui décide que ben, ok, t'auras pas besoin de travailler, je vais le payer, puis non seulement je vais payer la réparation de la voiture, puis après l'avoir réparée, je vais te la donner, la voiture. Ça paraît fou, mais quand on y pense, là, c'est ça qui a le plus de chances de convertir un fils turbulent, un fils, pas turbulent, je veux dire, mais en tout cas, délinquant. Il va tellement... Ouais, mais mon père, il m'aime tellement, c'est comme trop. Puis on peut espérer que ce trop d'amour-là change le cœur du délinquant. C'est un peu ça, la logique divine, d'une certaine manière.
Ça me rappelle une bonne histoire que j'avais entendue de Father Mike Schmidt dans Bible in a Year, Catechism in a Year. Il mentionnait que quand... À un moment donné, il était missionnaire quand il était jeune, avant d'avoir son appel pour être prêtre, début vingtaine, il était dans un groupe avec plein de jeunes. Puis apparemment, à un moment donné, il se comportait pas super bien, puis il était vraiment comme souvent en opposition avec le prêtre qui les accompagnait, puis à un moment donné, il décide d'aller à la confession, on parle de ça. Puis là, en confession, il dit ce qu'il a à dire, le prêtre donne l'absolution, puis il donne une relativement petite pénitence, puis Father Mike était surpris, là, mais pourquoi c'est une petite pénitence comme ça? Puis là, le prêtre, il a dit, je te donne une petite pénitence, mais je veux que tu saches que je vais jeûner pendant 30 jours pour toi. Puis,
Non, fais pas ça, il sent mal, j'imagine.
Ouais, il dit que c'était une des grosses étapes vers éventuellement sa vocation. Mais fait, comme tu dis, de faire une grosse...
Il y a un saint au 20e siècle, Saint José Maria, qui disait un peu la même chose au prêtre. Il disait, quand vous donnez des pénitences, il faut dire que c'était avant le Concile Vatican II, on donnait à l'époque des pénitences un peu plus grosses. Il disait, donnez des très petites pénitences, mais prenez sur vous de faire ce que vous lui auriez donné si vous lui avez donné tout ce que vous pensez qu'il fallait lui donner. Donc c'est ça, faites plus de prières, jeûnez, plus de sacrifices à la place de vos pénitents. Il disait pas nécessairement de leur dire, mais des fois ça peut être bon qu'ils le sachent dans certains cas. Faut pas que ce soit venteur, évidemment, là, mais faut le faire surtout. Là.
Mais je trouve ça vraiment intéressant comme approche, ça aide à comprendre certains trucs, là, où, disons, c'est... J'essaie de comprendre, disons, aussi l'intérêt de deux approches. Je pense qu'il y a l'approche symbolique qui est davantage, disons, cosmologique de prime abord pour expliquer que le but de la création, c'est de l'unir à Dieu. Ça semble résonner, disons, de ce que j'observe, là, beaucoup avec des gens qui viennent d'un milieu peut-être plus protestant où on leur fait surtout peur de l'enfer. Puis après ça, je pense qu'il y a comme certains de ces gens-là qui arrivent dans une position où des fois, ça a peut-être l'air d'être juste trop légal ou juste moral, puis ils voient pas, disons,
la beauté de tout le plan de la création et du salut derrière ça.
C'est ça. Ça semble comme pas intelligible. On dirait un peu qu'il y a comme, disons, la création... il existe une certaine cosmologie, puis les gens n'en parlent pas tant que ça, disons, dans certains milieux protestants que je suis en train de cibler. Fait qu'on dirait, par défaut, les gens, ils ont une cosmologie un peu, disons, scientifique, matérialiste. Puis après ça, si tu parles juste de l'aspect... morale, puis de peur de damnation éternelle, on dirait un genre de strate superficielle par-dessus une cosmologie matérialiste. Fait que j'ai l'impression que pour ces gens-là, de parler cosmologie en premier, puis que le but de la création, c'est de l'union à Dieu, sans parler de morale, ça semble vraiment bien marcher. Mais par contre, peut-être ce que je vois de désavantageux, c'est que non, à un moment donné, c'est pas nécessairement clair. Je pense, en fait, c'est si t'en restes là, à un moment donné, justement, vu que t'as mis la morale peut-être trop de côté, il y a certaines choses au niveau moral qui sont peut-être dures à expliquer, ou, mettons, le mystère, ce serait ben, pourquoi la chute, est-ce qu'il fallait que ça se passe? Si l'union à Dieu devait se passer, pourquoi est-ce que c'est pas juste quelque chose que Adam aurait pu faire par lui-même? Puis, effectivement, c'est une question que les gens se posent souvent, puis il y a des gens qui vont dire... je sais pas à quel point beaucoup de pères d'église disaient ça, mais apparemment, il y a des pères d'église qui disaient... puis les orthodoxes vont souvent mentionner ça dans... Je devrais spécifier, j'entends beaucoup d'orthodoxes qui parlent justement à des anciens protestants, comme je viens de parler, qui disent que, ben, en fait, Adam, s'il n'avait pas péché, il y aurait eu une genre d'incarnation quand même. Comme, c'est pas clair, ça aurait été quoi exactement, là, mais
disons... On le sait pas, là, parce que, de fait, la Bible nous dit tout le temps que l'incarnation est liée au péché, là, explicitement, mais est-ce que c'est impossible? Moi, je pense que non, c'est tout à fait possible.
Mais le défi que ça peut faire, ça, c'est que la chute a l'air un peu d'un accident, donc qui était peut-être...
Comme si c'était pas prévu.
Ouais, ou comme si c'était cosmologiquement
comme si
nécessaire.
Dieu était un mauvais scénariste, quelqu'un était venu changer son scénario. Non, il l'avait prévu. Là.
Ou comme si c'était cosmologiquement nécessaire, disons. Comme il n'y avait pas le choix.
Ouais, non, c'est pas nécessaire. Moi, j'irais pas jusque-là.
C'était
ni nécessaire le péché du point de vue de Dieu, mm-hmm. de le laisser faire, ou mm-hmm. même il aurait pu. En tout cas, c'est une autre discussion que j'ai eue avec Jonathan dans, mm-hmm. sur ce même podcast. Moi, je pense que Dieu est totalement libre mm-hmm. Dans tout son agir ad extra en dehors de lui-même. Là. Mm-hmm. Donc, création, incarnation, rédemption. Maintenant, c'est vrai que s'il avait fait les choses différemment, peut-être que tout le monde et l'histoire seraient complètement différentes, comme on a déjà discuté. Mm-hmm. Mais même chose, c'est pas nécessaire du point de vue de l'homme non plus. C'est pas comme si il est nécessaire que toi, tu pêches. Là. Mm-hmm. Sinon, on n'est plus libre, en fait. Mm-hmm. Là. Puis c'est pas un péché. La définition même d'un péché, c'est que c'est un acte libre où il y a une mm-hmm. connaissance suffisante que c'est mal, et puis un plein consentement de la volonté. T'es pas sous la contrainte de quelqu'un avec un gun sur la tête qui te dit que t'es obligé de faire ça. Là.
Mm-hmm. Ouais, ouais. Peut-être aussi ce que je trouve intéressant de parler de cet aspect moral-là, puis du fait que, disons, l'amour de quelqu'un en démérite, ça aide à comprendre, disons, peut-être plus pourquoi Jésus peut transformer la multiplicité en gloire. Pourquoi la couronne d'épines, par exemple, dont mm-hmm. on a parlé la dernière fois. Ça aide un peu plus à comprendre toutes les images qu'on avait de transformer la mort en gloire. J'ai l'impression de les voir peut-être un peu plus maintenant centrées autour du fait que d'aimer dans le démérite, c'est ça qui est le plus beau, en fait. C'était ça le but. Fait que ces images-là que... Disons, je peux voir qu'elles sont toutes cohérentes entre elles d'un point de vue symbolique. Puis je peux voir que le but, c'est de ramener à Dieu. Je peux plus facilement comprendre maintenant pourquoi ce serait plus beau maintenant d'avoir la couronne d'épines versus ça aurait été quoi l'équivalent sans la chute.
Je pense aussi que un des problèmes de notre époque dans la modernité, c'est l'individualisme. Mm-hmm. Puis l'individualisme fait qu'on ne voit plus notre dépendance, notre interdépendance, toutes les relations qui nous unissent les uns aux autres, le sens du tout. Mm-hmm. Et puis ça fait qu'on peut avoir tendance à prêcher un évangile, comme on voit dans certaines églises protestantes, pas tous, là, très psychologisant. Mm-hmm. En fond, c'est comment le christianisme peut t'aider, toi, dans ta quête personnelle de croissance, de réussite, mm-hmm. ou même de salut là, pour mm-hmm. aller au ciel, ce qui est pas mauvais. Le but, c'est d'aller au ciel. Mais d'en rester là, alors que finalement, notre regard reste centré sur moi, mes besoins, ce que ça fait pour moi. Mm-hmm. Or, la logique de la charité, c'est de devenir plus préoccupé par autrui que par soi, ce qui mm-hmm. va être à notre avantage au final, hein, parce que Jésus dit qu'il perd sa vie, la retrouvera, là, la trouvera. Mm-hmm. Et l'approche où on manifeste plus le plan général du salut, le plan général du cosmos, nous ressemble davantage sur la gloire de Dieu. Mm-hmm. Et là, dans le fond, c'est pas juste comment moi je peux être aidé par Dieu, comment mmh. Dieu peut m'aider. Puis on peut facilement tomber dans le péché mortel ici, c'est-à-dire où j'instrumentalise Dieu. Mmh. Dieu devient mon serviteur, au fond. Mmh. Dieu guérit moi, Dieu obtient moi ceci, Dieu fait que je réussisse cela, etc. Et là, tout d'un coup, on inverse la tendance. Là, c'est moi qui entre dans le plan de Dieu. Dieu, que veux-tu que je fasse dans cette grande histoire du salut? Mmh. Puis comment moi, je peux te manifester? Comment ma vie peut être un autre Christ? Comment moi, je peux révéler quel Dieu d'extrême bonté tu es par mon agir, par tout mon être? Mm-hmm. Et là, d'une certaine manière, ça, pour faire ça, je pense qu'il faut davantage voir les connexions entre toutes choses. Puis c'est ça que je trouve très riche dans l'approche mm-hmm. symbolique, c'est qu'on remet de l'avant comment toute chose est liée. Et qu'on peut pas, c'est ça. Et donc, on retrouve, je dirais, le tissu, pas juste le tissu social, mais le mm-hmm. tissu de l'être. Mm-hmm. C'est vraiment une grande toile, en fait, toute l'histoire et tout le cosmos.
Oui, c'est très intelligible. Ben justement,
mosaïque, c'est... Là, l'image de la mosaïque ouais. est toujours bonne, en fait.
Ouais. Peut-être c'est ça que je trouverais intéressant de réfléchir plus à ce moment-là. C'est. Disons, j'ai. Beaucoup de symbolisme que je comprends déjà, que je vois de façon cohérente, puis. Qui fait pas, disons, à ce que je cherche pour l'instant, tout de suite rapport au salut de la personne en démérite. Je me demande bien, disons, là c'est évident dans cette parabole-ci où on va aller chercher quelqu'un qui est en démérite, mm-hmm. mais disons, peut-être en dehors des paraboles, je serais curieux de savoir, disons, c'est quoi certains éléments dans... l'histoire de l'incarnation en général, mais peut-être spécifiquement dans l'épisode de la crucifixion, souvent dans la semaine sainte qu'on voit le plus de symboles, qui sont plus intelligible, spécifiquement si on pense à l'amour du troisième degré dont tu avais parlé, là, de personnes en démérite.
Mais énormément d'épisodes de la vie de Jésus envers la Samaritaine, par exemple. Chaque fois qu'il mange avec les pécheurs. En fait, je pense que, oui, il y a les paraboles, mais énormément d'épisodes, toutes les rencontres qu'il fait, sauf avec la Vierge Marie qui n'a pas péché. Là. Mais toute personne ne mérite. Zachée est un bel exemple aussi. Moi, j'ai plutôt l'impression que toute sa vie est une révélation, en fait, de ça. Que c'est la meilleure clé, en tout cas, une des meilleures clés de lecture de l'Évangile. De voir que Dieu veut manifester le don totalement gratuit, puis pas juste libéral, mais miséricordieux de Dieu. À commencer par... c'est la même chose aussi dans l'Ancien Testament, parce que Dieu passe son temps à sauver un peuple qui l'a trahi, sauver un peuple qui lui a désobéi, puis quand Moïse... Il vient tout juste de recevoir les tables de la loi, il ne se passe même pas quelques heures, le peuple a eu le temps de désobéir, tu sais, je veux dire, ils sont vraiment pas bons, là. Puis Dieu les aime malgré tout. Les apôtres, ce n'est qu'une gang de gars bozos qui font tout croche tout le temps, qui ne sont même pas capables de veiller une heure avec lui. Et puis Dieu qui renouvelle constamment le don qu'il leur fait, puis même qu'il donne en surabondance, il leur donne à la Pentecôte encore plus que tout ce qu'ils avaient imaginé comme don de l'esprit pour la mission qu'il leur est confiée. J'ai quand même l'impression que c'est une clé de lecture assez importante là, pour traverser la parole de Dieu.
Ouais, surtout dans les interactions avec des personnes, ça va venir.
Ouais, ben le but c'est de sauver des personnes. Ouais. Effectivement.
Ouais. Ouais. Puis ce versus, si je pense à, ils ont beaucoup de symbolisme d'objets ou d'actions. Là, c'est là où j'ai peut-être plus tendance à voir souvent l'aspect cosmologique. Je sais pas, d'aller chercher de l'or dans la bouche d'un poisson, là, d'aller chercher de la valeur dans le potentiel, dans le fond de l'eau. Là, justement, ça va être... Tu sais, c'est pas comme si... Tu peux pas avoir facilement du démérite dans ça. Là. Ça semble être plus la structure de base de la Genèse où dans le potentiel, tu vas chercher de la valeur.
Là. Mais je pense mieux voir un point en t'écoutant, là, c'est que ce qu'il faut bien voir, c'est que oui, l'Évangile parle toujours de comment être sauvé, soit personnellement, des fois collectivement aussi. Dans l'Ancien Testament, c'est plus comment collectivement on va être sauvé en groupe, dans l'arche, par exemple, au désert, etc. Mais pourquoi? Pas parce que c'est ton salut à toi ou de ton groupe, le but. Parce que, c'est exactement ce que j'ai dit tantôt, le but, c'est la gloire de Dieu et que sauver quelqu'un, l'aimer alors qu'il démérite, en faire un ami alors que c'était un ennemi, c'est ce qui va le plus manifester qui est Dieu dans son cœur profond. Et donc, c'est ordonné, le salut est ordonné à la gloire de Dieu. Autrement dit, Saint Paul va dire... tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. C'est-à-dire que, avec une vision courte, j'ai l'impression que le Christ est pour moi. Le Christ est venu pour me sauver ou nous sauver. Mais avec un regard long et large, je comprends que moi, je suis sauvé par le Christ pour que le Christ se révèle comme un roi miséricordieux et qu'il manifeste Dieu. Éventuellement. Donc, je suis beaucoup plus moi en vue du Christ que le Christ est en vue de moi au final.
Ouais. Non, c'est bon. Je trouve ça super pertinent.
J'avais une question pour toi. Est-ce que tu vois la croix dans cette parabole-là?
Bonne question.
C'est une question au piège. Mais souvent, tu sais, on cherche, la croix doit être partout. Si c'est vraiment, si cette parabole-là est une synthèse ou un microcosme de toute chose, elle devrait s'y retrouver quelque part.
Ouais. Ben, je me demande si je la vois pas comme à deux endroits, là.
Ouais, ouais.
Où, tu sais, il y a le fils qui touche le fond du baril.
Ouais.
Mais je vois aussi dans le veau gras.
Exact.
Le chevreau, ouais.
Ben moi la croix, quand il touche le fond du baril, quand il expérimente la faim, la souffrance, l'impureté, ça, je dirais que c'est plus nos souffrances à nous, personnelles, qui peuvent être des fois des lieux de rédemption, des lieux de réveil de notre conscience. Ça, il y a quelque chose qui cloche, il faut que je change de direction dans ma vie. Mais la croix, au sens le plus fort du terme, de l'agneau immolé, je pense que c'est clairement le repas festif. Puis c'est intéressant parce qu'il est pile au milieu, en tout cas au milieu narratif de la parabole. C'est-à-dire que ça vient conclure l'histoire du fils prodigue, Là, il revient à la maison, on fait une grande fête, on tue le veau gras, c'est-à-dire qu'on fait un repas sacrificiel, mm-hmm. une fête mm-hmm. autour d'un repas sacrificiel qui fait la réconciliation, qui refait l'unité de toute chose, de toute mm-hmm. la famille. Et cette folie-là réconcilie, réunifie le fils cadet,
mm-hmm.
mais c'est aussi un scandale pour les Juifs, hein, folie pour les païens, ouais. scandale pour les Juifs. Ça scandalise le fils aîné,
mm-hmm.
puis lui, ça fait qu'il sac son camp.
Mm-hmm.
Bon, en tout cas, ou il manifeste qu'il n'était jamais là intérieurement dans son cœur.
Mm-hmm.
Et c'est la même chose, je pense que l'incarnation rédemptrice, la croix, c'est à la fois ce qui réconcilie toute l'humanité, mais c'est ce qui crée la division aussi.
Mm-hmm.
Tout le monde sur la terre est pour ou contre le Christ. Tout le monde se positionne par rapport à ça. Et l'Eucharistie, même chose. La plupart mm-hmm. des protestants, c'est l'Eucharistie qui les dérange. Que Dieu vienne dans du pain, ça semble trop. Même dans l'Évangile, les apôtres disent « Ben voyons, ça n'a pas de bon mm-hmm. sens. » Puis il y en a plein qui quittent Jésus quand il leur dit qu'il va falloir qu'il mange son corps. Donc on mm-hmm. voit que le scandale est là. Et le scandale est là parce que c'est comme la folie d'amour est trop grande, d'une mm-hmm. certaine manière. Mm-hmm. Puis on voudrait, nous, contrôler Dieu, limiter Dieu. Non, Dieu ne peut quand même pas aller jusque-là. Dieu ne peut pas utiliser ce moyen-là.
Mm-hmm.
Et là, on se rebelle parce qu'on veut être encore en contrôle. Mm-hmm. On veut un peu que ce soit nous qui décidions de quelle manière Dieu va se manifester ou va nous sauver.
Oui, mm-hmm. oui. Ouais. Ben, par rapport à la folie, c'est un truc qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, mais... Avant la parabole de l'enfant prodigue, il y a deux paraboles reliées. Là. Il y a la brebis perdue, où il y a une brebis perdue, puis il y en a 99 qui mm-hmm. sont justes. Puis Jésus dit qu'il va laisser les brebis justes comme à elles-mêmes pour aller chercher la brebis perdue. Puis ensuite, le drachme perdu avec la femme qui perd une pièce de monnaie qui vaut pas grand-chose, mais une fois qu'il réussit à la retrouver, je pense que ça dit qu'elle en a 10 même. Elle en a 10, elle en perd une, puis là, elle va fouiller comme à travers toute sa maison jusqu'à temps qu'elle en trouve.
Elle est un peu moins folle, parce qu'elle abandonne pas les 9 autres pour en chercher une. <là.
rire> Mais présumément, une petite pièce de monnaie, puis après ça, elle fait un...
Ben, c'est une pièce de monnaie qui représentait une journée complète de travail.
OK, quand même.
Quand même, okay, là. Fait que, okay, comme okay. Tu peux bien travailler une journée pour trouver une journée de travail.
Ouais.
Mm. Ben, toute parabole est basée sur un élément de folie, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est pas juste une histoire avec des analogies,
mm-hmm.
C'est une histoire qui a quelque chose qui cloche.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, il y a quelque chose qui devrait... Ben voyons, ça n'a pas de bon sens, là. T'abandonnes pas un troupeau pour en sauver un, c'est comme mathématiquement, c'est pas un bon calcul.
Mm-hmm.
Puis là où accroche la parabole, je pense que c'est Origène qui dit ça, là où ça accroche, c'est là que tu dois creuser.
Mm-hmm.
C'est là que le cœur du message se trouve,
mm-hmm.
soit en soi ou soit pour toi, parce que des fois, dans une lecture, ça se peut que ce soit un autre passage qui t'accroche là, ce jour-là. Mm-hmm. Puis je pense qu'ici, justement, c'est qu'on veut sortir de la logique de la justice.
Mm-hmm.
Ce que Dieu est venu révéler, surtout, c'est qu'il n'était pas au niveau de la légalité de la justice seulement, mais il allait plus loin, pas qu'il est contre, mm-hmm. qu'il va beaucoup plus loin que ça, parce que ce qu'il veut, c'est la relation d'amitié ou la relation sponsiale ou filiale avec nous. Mm-hmm. Et ça nous différencie de toutes les religions autres, même dans l'islam, où ce que ça va être vraiment un rapport de créature-créateur, maître et esclave, dans la plupart de toutes les religions païennes. Il y a vraiment juste le christianisme qui a imaginé que Dieu pourrait vouloir faire de l'homme son fils, son ami, son épouse mm-hmm. bien-aimée, là, l'Église.
Mm-hmm.
Et ça il faut vraiment sortir de la logique de la justice, du donnant-donnant.
Mm-hmm.
Puis je pense que par des exemples un peu frappants, fous comme ça,
mm-hmm.
il montre à quel point il t'aime toi personnellement.
Mm-hmm.
Évidemment, Dieu est infini, fait qu'en réalité, il peut être totalement à tous en même temps. Donc, mm-hmm. il n'abandonne pas vraiment les 99 autres. Mm-hmm. Là. Après, les pères de l'Église font souvent une lecture de ça en disant les 99 autres, c'est les anges déchus.
OK, OK.
Dans le sens que Dieu s'est préoccupé du dernier rejeton de la création intelligente qui est l'humanité. Mm-hmm. Et puis, il a quitté le ciel des anges pour aller sauver l'humanité la plus basse, qui est matérielle, qui a besoin même d'apprendre, parce que les mm-hmm. anges ne vont pas à l'école, ils savent tout de l'instant de leur création.
Mm-hmm.
Et en tout cas, je pense que c'est une interprétation que j'entends souvent. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu y voyais dans cette folie-là?
Ah, d'avoir eu perdu, je n'ai pas pris le temps d'y penser plus que ça encore. Là. Mais... J'avais envie de retourner à la question que tu posais sur la croix, où est-ce qu'on la voit,
ouais,
parce
ouais.
que ça m'avait fait allumer sur le fait que souvent, notamment quand il y a une histoire de deux frères dans la Bible, Tu vois comme à la gauche puis à la droite qui comme ça sépare.
Ouais, ça, je trouvais ça intéressant au début quand tu as développé ça.
Puis après, ce que tu peux voir souvent dans l'histoire de l'incarnation, c'est que Jésus vient comme faire les deux en même temps d'une façon qui va les régler. Fait que Jésus, ben, il n'y a pas de frère d'ailleurs. Ben, ça dépend comment tu le vois. Là.
Il y a des cousins, mais il n'y a pas de frère.
Il y a des cousins. Mais en fait, mais sur la
on croix, est tous ses frères par adoption.
Ouais. Ah, il y a ça. Puis le premier des frères, en fait, ça semble être l'apôtre Jean, qui lui est bien associé à Jésus. Là. Je digresse un peu, mais je vais revenir après. Parce qu'il y a un parallèle à faire qui est assez connu entre Jésus et Joseph dans l'Ancien Testament. Puis, mais il y a aussi un parallèle à faire entre la mère de Joseph, c'est-à-dire Rachel, et Marie. Puis même chose entre le deuxième fils de Rachel, qui était Benjamin, puis le deuxième fils de Marie, qui est Jean, au pied de la croix. Là, je ne me rappelle plus de tous les parallèles. J'avais fait un épisode avec Jonathan là-dessus. Et, disons, un endroit où c'est explicite, au moins dans les évangiles, qu'il y a un parallèle à faire entre Marie et Rachel, c'est au massacre des innocents. C'est écrit explicitement dans...
Oui, que Rachel crie...
pour ses enfants. Puis, il y a une... C'est resté une tradition juive à cause de... Je ne me rappelle pas dans quel prophète, là, mais à quelque part dans l'Ancien Testament, ça raconte que quand les Juifs sont en exode à Babylone, ils vont comme pleurer à la tombe de Rachel. Puis là, Rachel intercède pour eux. Puis après ça, Dieu va les ramener. Puis il y a l'idée explicitement dans le Nouveau Testament que c'est un peu ça que Marie fait au massacre des innocents. Elle va intercéder pour toutes ces personnes-là. Puis, de la même façon que Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin, Marie va comme mourir, être percée quand Jésus est percé sur la croix, puis c'est là qu'elle va donner naissance à l'Église, Jean, puis ensuite toute l'Église. Puis, il y a un paquet d'autres parallèles que j'oublie, mais ça permet de comprendre, OK, comme Jésus finit par avoir la bonne relation entre, disons, le père aîné qui représente son père, sans être rigoriste et tomber dans l'erreur des pharisiens. Mm-hmm. Puis il va avoir un frère, Jean, qui, lui, va pas tomber dans l'erreur d'être comme le deuxième fils qui va comme trop s'éloigner, ou ensuite qui va essayer d'usurper la place de son frère aîné, comme Jacob avait fait à Ésaü, par exemple. Mais bon, en général, dans l'Ancien Testament, quand il y a des frères, souvent tu vas voir que Jésus vient résoudre leurs deux problèmes.
Fait quoi? Il récapitule tout en lui.
C'est ça, les deux.
Il est, ouais. Le fait qu'il y ait deux larrons à sa droite et à sa gauche, j'imagine aussi.
C'est ça, c'est relié à la gauche et à la droite encore, là, parce que là, il y a dans l'iconographie, c'est comme ça que ça va être dépeint d'habitude. Il y a le larron pénitent à sa droite qui vient prendre comme les brebis, puis il y a l'aron qui n'est pas pénitent, qui est repoussé à sa gauche comme les boucs.
Par contre, aussi, on voit difficilement comment Jésus prend celui qui refuse la miséricorde, non?
Si, c'est... effectivement, sur la croix, là, on dirait qu'il repousse. Ben, c'est pas dit qu'il ne sera pas, mais... c'est-à-dire, dans la parabole des boucs et des brebis, là, on dirait qu'il va être repoussé. Mais il y a d'autres passages dans... Ben, surtout, je pense...
Mais les deux larrons, pour moi, représentent bien les deux fils, par contre, de la parabole. Celui qui se durcit par rapport à celui qui son cœur fond, puis accueille la bonne nouvelle.
Oui, oui, ouais, t'as raison là-dessus, là.
Puis un troisième fils dans la parabole, on l'oublie, là.
Ah oui?
Ouais.
Lui qui est dans les champs?
Non, c'est un petit jeu, mais c'est celui qui la raconte.
Okay.
C'est Jésus lui-même qui est le fils du Père. Mm-hmm. Et qui, lui, fait le schéma, comme on a parlé tout à l'heure, d'exitus reditus. Mm-hmm. Mais lui, il ne le fait pas parce qu'il est pécheur. Lui, il le fait pour aller sauver les pécheurs. Mm-hmm. Donc, il le fait vraiment pour... comme c'est ça, c'est le schéma de la mission. Et puis, il prend sur lui, on peut dire, l'humanité. Donc, mm-hmm. il assume en lui l'humanité pour toute la ramener vers le Père. Mm-hmm. Puis, je me demande si on ne peut pas imaginer que l'incarnation, c'est l'équivalent du moment où le fils cadet rentre en lui-même. Mm-hmm. C'est comme si l'incarnation... C'est la première humanité, c'est la tête, mm-hmm. la première humanité qui va être sauvée, qui va faciliter ensuite que tout le corps suive. Mm-hmm. Donc un peu quand tu rentres en toi-même, tu sais, c'est comme au début, c'est au niveau de ta pensée, c'est le sommet de ton être qui se convertit. Mm-hmm. Puis après ça, ça va amorcer la marche concrète mm-hmm. de toute ta vie et tout ton corps pour rentrer à la maison. Mm-hmm. Donc je pense que ça peut être une autre analogie ici.
Ouais. Mais par rapport à ce frère-là, en général, comment on commençait à parler des paires de frères dans l'Ancien Testament, puis d'habitude, Jésus vient faire les deux. Fait qu'on a parlé un peu de Caïn et Abel la dernière fois, je pense, par exemple, là, où Jésus va être un agriculteur comme Caïn, il va dans la ville à cause de Rome comme Caïn. Mais il va aussi être Abel parce que c'est un berger qui s'occupe de ses brebis, il va être nomade, là, il va se promener. Fait qu'il, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais tu vois que Jésus vient être à la fois Caïn et Abel, puis résoudre leur opposition. Il va faire la même chose avec Jacob et Ésaü, comme souvent les pères de frères problématiques qui viennent y régler. Fait que là, ça me donnait envie de voir, dans ce cas-ci, est-ce que Jésus vient comme faire les deux chemins, mais bien? Puis,
ben, il respecte parfaitement la loi, Jésus.
Ouais.
De ce point
comme
de
le
vue.
Fils aîné.
Ouais, exactement. Ouais. Après, il ne pêche pas.
Mm-hmm.
Mais comme je disais, soit il prend sur lui le péché des autres, donc
ouais.
ça c'est une autre manière de dire qu'il assumerait le péché du fils cadet, mais n'oublions pas qu'il y a un péché du fils aîné aussi, là.
Mm-hmm.
Donc il prend les deux péchés.
Ouais.
Ou c'est pour ça que je t'ai dit, ben, lui il sort, mais il sort pas pour se perdre, mais il sort pour aller sauver perdu.
Exact.
Donc,
c'est ça que je voyais, parce
ce
que...
serait la manière qu'il ferait le même chemin que le fils cadet, mais pas pour la même raison.
Exact. Tu dis ça, puis je pense que je vois des parallèles, parce que, disons, le fait, par exemple, d'aller de dilapider avec des prostituées, ben, il y a des images de mariage de Jésus avec la Samaritaine. Dans l'Ancien Testament, souvent, quand il y a un des patriarches qui s'en va à un puits, puis là, une femme, il donne de l'eau, c'est comme une image de mariage qui s'en vient. Mais Jésus va faire ça avec la Samaritaine qui pardonne. Il va aussi avoir il y a l'image des cochons, là, des païens, d'aller jusque chez les païens. Puis Jésus va faire ça, il va aller se promener jusque chez les païens, il va éventuellement aller chercher les païens. Fait qu'il réussit à aller jusqu'aux extrémités du frère cadet, mais bien. T'sais, il va aller comme sauver la prostituée au lieu d'aller dilapider son avoir avec elle.
Ouais, c'est ça. Il va en périphérie du centre, mais sans y rester.
C'est ça.
Mais le fils... Cadet, non, le fils aîné, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas sorti.
Mm-hmm.
Il aurait pu essayer d'aller sauver son frère là aussi.
Mm-hmm.
Ça ne raconte pas, là, mais il n'a rien fait. Alors que père, lui, sans être carrément sorti parce qu'il voulait laisser son fils. Là, ben, quand son fils il a dit « Donne-moi son héritage », il aurait pu dire non.
Mm-hmm.
Mais il l'aimait comme fils et non comme serviteur ou comme esclave. Donc, il l'a laissé dans sa liberté.
Mm-hmm.
Il est allé faire ses erreurs. Mais il guettait son retour. Donc on peut imaginer que soit il était sur le porche de la maison ou regardait par la fenêtre, en tout cas, il était déjà en mouvement de sortie, au moins par son regard. Et puis on voit qu'il court vers son fils. Dès qu'il voit qu'il y a un petit peu de bonne volonté de son fils, là, lui-même, le père, il sort. Il sort de sa maison pour aller le sauver. Alors que le fils cadet, lui, a refusé ce mouvement de sortie. Et de rentrer. Donc, il y a comme quelque chose du péché statique ici. Puis ça, c'est le péché du légaliste. C'est que c'est juste, ah, ben moi, je suis une bonne personne, j'ai rien fait de mal. Ouais, mais tout le péché par omission, tout le bien que tu n'as pas fait, auquel tu es toute ta mission, toute ta vocation à laquelle tu étais appelé, tu es resté dans la sécurité, dans le confort. Encore là, le talent enfoui, la parabole du talent enfoui, c'est comme, j'ai eu peur, fait que j'ai rien fait. Voilà, je te redonne ton argent, je suis juste. Tu m'avais donné un, je te redonne un. Non, on lui reproche très, très sévèrement, puis on lui enlève même ce qu'il avait. Il y a d'autres analogies, je ne sais pas si ça pourrait t'intéresser, mais moi, je trouve qu'il y a énormément d'analogies avec la Genèse, un autre texte qu'on a médité ensemble, là, le péché originel. C'est beaucoup autour de la bouffe, en fait. Ces deux récits-là tournent autour de la bouffe. Évidemment, dans la Genèse, ben, c'est beaucoup autour du fruit défendu, l'arbre de vie, etc. Ici, c'est beaucoup autour de la bouffe, c'est-à-dire qu'il a faim, donc il expérimente le manque, il finit par manger des choses animales au lieu des choses humaines ou divines, en mangeant la nourriture des cochons. Mais c'est quand même cette faim-là qui va le ramener à la maison. Puis à la fin, ben, il y a le veau gras, qui est comme ça tourne autour d'un banquet, d'un repas aussi. Et je pense qu'il y a comme un message ici de dis-moi, pour le rendre en termes actuels, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Là. Dis-moi de ce dont tu te nourris. T'sais. Est-ce que tu te nourris de la relation avec Dieu? Est-ce que c'est ça la substance de ta vie? où tu te nourris de choses bestiales, animales, terrestres. Est-ce que tu te nourris du ciel ou de la terre? Et puis, je pense que c'est comme un... Où est ton désir, en fait?
Mm-hmm.
Donc, il y a comme une conversion. Pour convertir le mouvement, il faut convertir le désir, parce que le mouvement vient du désir. Il vient du but qu'on se donne, de ce qu'on aime le plus. Puis c'est là que va, la marche va... Ça, la, tout mouvement nécessite un moteur. Puis le moteur, ben, ça va être le désir dans ce cas-ci. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on peut relire ces deux récits-là, comme celui de la Genèse étant la révélation de la mauvaise nouvelle. Mm-hmm. Voici comment tout a dérapé.
Mm-hmm.
Puis voici ici la bonne nouvelle, en tout cas surtout pour le fils cadet, comment tout peut revenir en ordre,
mm-hmm.
d'une certaine manière. Ouais, je pense que c'est une lecture assez facile à faire. Puis on revoit même les symboles du vêtement qui étaient très présents aussi dans la Genèse, là. Donc ils réalisent qu'ils sont nus après avoir péché. Au début, ils essaient de se faire eux-mêmes des pagnes, mais ils se mettent encore plus dans le trouble en faisant ça. Puis finalement, c'est Dieu qui leur fait en peau d'animaux un vêtement qu'on va identifier aux vêtements de la grâce, aux vêtements baptismales, cette sorte de vie nouvelle, divine, faite par Dieu, qui est pas la qui est comme une technologie, mais faite par Dieu ici, dans le premier vêtement. Là. Et ici, ben, le père, la première chose qu'il fait, c'est vite apporter le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Donc, c'est vraiment, je pense, la grâce perdue d'Adam qui lui est redonnée, ce vêtement de la grâce. L'anneau d'alliance d'amour aussi, parce que bon, l'anneau symbole d'alliance, comme pour les époux. Et puis là, vraiment, c'est l'alliance avait été rompue. Il y avait eu séparation avec Dieu, donc on refait l'alliance. Puis les sandales, on peut dire, ben, c'est d'entrer dans la suite du Christ. Donc, tu vas continuer à marcher dans ta vie. Ce ne sera pas une vie qui va rester statique, mais maintenant, tu vas suivre le Christ, c'est-à-dire que tu vas repartir de la maison pour aller en ramener d'autres. Ensuite.
Ça, les parallèles avec la Genèse sont intéressants. Je n'avais pas allumé, mais effectivement, c'est un truc que, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais ça commence parce que le fils cadet voulait le fruit tout de suite. Il voulait la fortune tout de suite en commençant.
Par soi-même.
Ouais.
Donc, il veut avoir tout par soi-même. Alors que, justement, ben, peut-être ça que tu as dit, mais dans la Genèse, ça dépend comment on lit, mais éventuellement, je pense qu'ils auraient pu manger du fruit. Mais au moment que Dieu aurait choisi. Et là, ils l'ont pris par eux-mêmes. Donc, ils ont voulu avoir le bonheur par leur propre force. Et ben ici, c'est la même chose. Il aurait eu l'héritage. C'est sûr qu'il l'aurait eu. Mais je le veux tout de suite par moi-même maintenant.
Puis ensuite, avec l'événement, c'est intéressant aussi parce que, disons, il y a Adam et Ève, quand ils se rendent compte qu'ils sont nus, c'est une nudité de honte.
Oui.
Quelque chose qui est mauvais. Puis quand le...
Mais qui est un don de Dieu aussi, la honte. Parce que cette honte, ouais, c'est ça, cette honte permet de voir que j'ai fait le mal et donc permet un moment de conversion, un début de conversion.
Ben, comme justement le fils cadet quand il est avec les cochons. Puis, comme, en fait, je pense pas que ça parle explicitement de ce qu'il portait à ce moment-là, mais on peut imaginer que c'était pas très glorieux.
En tout cas, c'était pas le plus beau vêtement parce que le père a demandé en le voyant, là, il n'y avait pas de l'air beau d'après moi.
Puis les choses qu'il donne aussi, tu as mentionné les sandales.
Ouais.
Moi, ça me fait aussi tout de suite penser à Moïse qui doit se couvrir les pieds, qui doit enlever ses sandales pour être face à Dieu. Mais le fait que l'événement soit transformé en gloire, là, c'est comme des signes qui est en union avec son père. Là. C'est des vêtements de gloire, on peut dire. Là.
La sandale, c'est aussi la distinction entre l'esclave et l'homme libre. Dans l'Antiquité, je crois. Là, c'est-à-dire que les esclaves étant pauvres étaient nu-pieds. Puis c'est eux d'ailleurs qui nouaient les sandales aux hommes libres, aux gens riches, etc. Ils prenaient soin des pieds de ceux qui étaient chaussés. Donc en lui remettant des sandales, c'est je te redonne ta dignité de fils, tu n'es plus un serviteur ou un esclave. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui va marcher nu-pieds dans la maison. Toi, tu vas avoir des sandales.
Il faudrait que je pense plus, mais il y a peut-être quelque chose avec les épines aussi. Là. Saint-Germain de Nice, quand il parle de Moïse puis des épines, il dit. Quand on tombe dans la multiplicité avec les épines, ben les pieds c'est comme sont vulnérables. Fait qu'on doit mettre des vêtements de peau, on doit mettre des vêtements, mais aussi des sandales. Puis on enlève ça pour retourner dans le jardin. Donc quand Moïse monte la montagne, c'est comme s'il retournait en Éden en jeûnant, en enlevant les sandales. Mais là, il va manger de la viande, contrairement à ce qu'il y avait dans la Genèse. Contrairement à ce qu'il y avait avant le déluge même. Puis il va porter des sandales, contrairement à ce que Moïse doit faire quand il retourne dans le jardin. Fait que, genre, t'as peut-être déjà des indications là que on va plus loin que la logique, disons, de ramener à l'état qu'on était avant le péché. On va faire plus. Une des choses qui scandalise le... Ben, en fait, c'est ce qui
Exactement.
Scandalise
Exactement, il dit « T'as jamais fait de fête pour moi », donc c'est montrer qu'il lui a donné plus.
C'est ça, mm. Exact.
Il y avait aussi... j'aimerais revenir sur le symbole de l'Eucharistie, là, ce grand banquet-là. Ouais. On mange à la table de Dieu, en lien avec la nourriture. Vraiment, c'est que à ce moment-là, on mange à la table de Dieu. On mange à la table du Père. On mange le pain de Dieu, on mange Dieu lui-même. Puis dans le fond, c'est on devient ce que l'on mange. Donc on est divinisé de cette manière-là. Puis, c'est important, c'est ça, c'est un sacrifice repas. Il faut tuer le veau gras. Puis c'est, quand on y pense, c'est ça, c'est que la vie vient de la mort. D'une certaine manière. Il a fallu que quelqu'un, quelque chose, une créature se sacrifie pour que toi, tu puisses vivre. Même les légumes, il faut qu'ils meurent. Même pour les végétariens, il y a quelque chose qui meurt pour que nous, on ait la vie. Et donc, vraiment, ici, on a la croix. Là. On tue l'agneau pour que nous, on ait la vie. Puis, pour preuve que c'est vraiment la croix, c'est le verset suivant. Parce que le verset suivant, après « Mangeons et festoyons », c'est « Car mon fils qui voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Donc, on a la Pâque ici, le passage de la mort à la vie, qui vient de dire « Ben, ce repas-là, il manifeste quoi? Il manifeste le passage de la mort à la vie.
» Ouais, ouais. Non, c'est clair qu'il y a un lien avec Pâque, là. En plus, si je me rappelle bien, quand les Juifs célébraient la Pâque, la façon dont il immolait l'agneau, c'était comme en le crucifiant, là. La façon dont il était attaché. Là. Fait que c'est quand Jésus arrive à Jérusalem pour la semaine sainte, puis que les gens commencent à faire le sacrifice de la Pâque, ils voyaient comme des millions, si ça, ben des millions, des centaines de milliers, il y avait vraiment beaucoup de Juifs, là, qui immolaient des agneaux crucifiés comme ça. Donc après ça, quand Jésus fait la même chose, ben c'est ça. Tu vois vite le lien, là. OK, c'est lui l'agneau de la Pâque, là. C'est lui l'agneau du festin ici.
Un autre point que j'ai toujours trouvé intéressant puis qui est dénoté par la plupart des exégètes ou des pères de l'Église, c'est quand le fils, il dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père » au verset 18 et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Là, on se demande justement, est-ce qu'il regrette vraiment? Je pense que tu l'as évoqué tout à l'heure. Je pense que non. Je pense qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle ici en théologie dans de l'attrition que de la contrition. C'est-à-dire qu'il a peur des conséquences du mal qu'il a fait. Ici, il voit que ben j'ai faim, je suis traité comme un esclave, je vis parmi les cochons. En fond, c'est comme la peur de l'enfer. Il vit en enfer, d'une certaine manière. Puis là, parce qu'il souffre de ces maux-là, c'est ça son premier mouvement de conversion, c'est de l'attrition. C'est simplement ne plus vouloir être dans la souffrance. Et puis là, il s'apprête à dire ça à son père, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas le temps de finir sa phrase. Le père le coupe carrément, et puis il ne lui laisse pas le temps de terminer, de dire « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Parce que tout de suite, il veut susciter en lui justement la contrition. Le but du père, c'est de lui dire « Non, tu ne vas pas revenir ici juste pour être dans le confort puis ne plus souffrir. Moi, je veux que tu aies une contrition, c'est-à-dire que ta peine soit de m'avoir fait de la peine à moi. Ta peine, ça va être d'avoir blessé notre relation père-fils et que tu redeviennes vraiment mon fils. » Et puis, il lui coupe la parole parce qu'il lui coupe une parole de mensonge, en fait. Il lui dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », mais ça, c'est faux. C'est un mensonge. Et tout mal, tout péché vient d'un mensonge, dans le fond. Tout péché vient du fait qu'on croit à un mensonge. Ne serait-ce que si je suis la parole de Dieu, ça va me rendre malheureux. Si je suis la loi de Dieu, je serai moins libre. Je ne suis pas digne, comme il dit ici. Je ne suis pas digne, moi, je suis trop pécheur pour Dieu. Je suis pas assez bon pour telle personne. Et donc, finalement, on finit par agir comme on croit le mensonge. Donc, je crois que je suis un alcoolique, donc j'agis comme un alcoolique. Je crois que je suis un orgueilleux, donc j'agis comme un orgueilleux. Et ça, c'est vraiment, moi, je crois, le démon qui insinue dans notre tête des mensonges comme ça sur notre identité, qui vient comme pervertir ce qu'on croit de nous-mêmes. Puis là, le père ici, ben, il coupe le mensonge, puis il la remplace, dans le fond, par une parole de vérité. C'est là que la parole de Dieu, c'est comme la vérité qui vient s'opposer à tous les mensonges qui nous tournent dans la tête, puis qui nous dit « Non, toi, t'es un fils bien-aimé. Mm-hmm. Toi, t'as une dignité royale, t'as une dignité même divine, en fait. Mm-hmm. » Et puis, ben donc, agis en fils de Dieu. Et là, la morale vient en second, pas en premier. C'est pas parce que t'es moral que tu deviens fils de Dieu. Mm-hmm. C'est parce qu'on te dit, puis tu crois que t'es fils de Dieu, que tu te mets à agir comme quelqu'un qui a une dignité royale.
Mm-hmm. Oui.
D'autres choses qui te frappent?
Ben, peut-être une question, en fait.
Ouais.
Du côté du banquet, de ton côté, comment est-ce que tu fais le lien entre le banquet et la réunion avec Dieu?
Ouais, ben, je pense que c'est tout repas, en fait, qui fonctionne comme ça. Un repas, ça crée la communion. D'abord, les restaurants, c'est une invention moderne, là. C'est-à-dire, l'idée que chacun commande une assiette, c'est très, très nouveau, là. Normalement, il y a un seul plat ou un seul repas, puis tout le monde pige dans le même repas. En famille, c'est encore comme ça. Généralement, on ne crée pas un repas différent par personne. Donc, symboliquement, déjà, le sens de communion, parce qu'on se nourrit tous de la même bête, du même être vivant sacrifié. Et donc, on a sacrifié un être vivant, et on va tous vivre de ce même être qui a été sacrifié. Donc, on reçoit tous la vie du même animal ou comme du même fruit et légumes qui sont des êtres vivants aussi. Donc, déjà là, je pense que ça manifeste l'unité ici. En plus, chez les êtres humains, le repas, c'est le moment de la convivialité. Donc, c'est le moment de la conversation. On raconte notre journée, on partage. Vraiment, un repas vraiment humain. C'est un repas où la conversation ne parle pas de la bouffe. Pas seulement, en tout cas. Où on essaie d'élever la conversation, ce qu'on a dans le cœur, nos meilleures pensées, nos meilleurs sentiments. On révèle nos souffrances, nos joies, nos peines. Et donc, on crée la communion des cœurs ici, mais qui est manifestée, je pense, par la communion des corps, c'est-à-dire cette dépendance à tous vivre, que notre vie soit tous dépendante du même mais, d'une certaine manière. C'est comme ça que je le manifesterais. Et puis, au niveau de l'Eucharistie, là, c'est évidemment qu'en mangeant Dieu, on est divinisé. Et donc, on devient tous semblables en devenant tous à la ressemblance de Dieu.
Non, c'est bien. Là. Est-ce que c'est comme fractal, là? Ça fonctionne à quelques niveaux. Là. Comme tu avais dit, au niveau matériel, très physique, on est nourri de la même chose. Notre corps va tous, comme en quelque sorte, devenir le même corps. Puis, surtout si on a un but derrière le repas, si on l'offre pour une certaine fête, disons, ben on s'unit au niveau spirituel aussi vers la même chose.
Le pain, qui est le symbole aussi avec le vin le plus commun là, dans la Bible, ben, c'est l'union de plusieurs grains, de plusieurs grains qui sont morts. En fait, donc on a et le symbolisme qu'il a fallu que des créatures meurent, chaque grain a dû mourir, puis avec l'eau, le pain, c'est une unité d'une multiplicité. Et donc, on mange ce que l'on doit devenir. Donc, c'est vrai parce qu'on mange Dieu et on devient Dieu, mais ça veut dire qu'on mange on mange de la mort et de la multiplicité pour devenir de l'unité. Puis le vin, ben, t'as la même chose, parce que le vin, c'est des raisins, c'est une multiplicité. C'est-à-dire, il y a des grappes, mais dans chaque grappe, t'as beaucoup de fruits. Et puis, ils doivent mourir et fermenter. La fermentation, c'est une mort contrôlée. Et donc, en buvant du vin, on mange encore là de la multiplicité et de la mort pour devenir de l'unité. Donc, je vois dans ton sens.
Ouais, au niveau de choses, surtout d'une... Ben, tu peux le voir dans une famille aussi, mais même humain, je trouve, dans une paroisse autour de l'Eucharistie aussi, là, tu peux voir que c'est comme un corps qui est nourri de la même chose, je trouve, parce que donc, chaque personne est comme une cellule dans un corps, puis tu sais, oui, ils s'en vont, disons, pendant la semaine, mais ils reviennent tous le dimanche, puis ils font des actions, tu sais, c'est à grande échelle. Là, un individu, ça agit pendant un cycle de 24 heures, disons, puis tu as mangé plusieurs fois, tu as fait des choses, etc. Mais tu peux voir, je trouve, une paroisse qui fait la même chose, disons, d'exister puis de résister encore, comme de s'éloigner,
sortir, entrer. C'est la respiration de l'Église, la communauté qui se rassemble chaque dimanche et qui repart et qui se rassemble. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment ce mouvement-là. Puis c'est un mouvement qui est missionnaire, normalement. Là. C'est l'envoi après la messe, c'est aller en mission, en fait.
Puis je trouve que tu peux voir que, comme tu dis, oui, on mange physiquement le pain, le corps du Christ, mais quand on fait ça, on devient un même corps. C'est parce qu'on va tous ensemble célébrer la même chose, manger la même chose, ensuite on s'éloigne, on revient, puis tu vois qu'on est les cellules d'une même chose. Fait qu'on devient, on mange Jésus, mais d'une certaine façon, Jésus nous mange. On est comme son corps à lui dans
Ouais.
l'Église.
Même le mouvement du prêtre au début de la messe manifeste l'exitus, reditus, la sortie et l'entrée. Parce que traditionnellement, ce qu'on devrait faire, on le fait moins ces temps-ci, c'est que le prêtre devrait partir de la sacristie. Et normalement, la sacristie, elle est derrière le cœur. Et donc, le prêtre ne devrait pas attendre à la porte là, pour dire bonjour au monde. Ben, peut-être d'un point de vue social, aujourd'hui, on le fait pour être sympathique, là. Mais normalement, il devrait retourner à la sacristie après. Puis là, on sonne la cloche. Il sort de la sacristie. Donc, c'est comme il sort du sein caché du Père. Il y a un très beau texte de Saint Vincent Ferrier là-dessus où il explique tout ça. Puis là, il va jusqu'au fond de l'Église, donc jusqu'à l'ultime périphérie du monde, chercher les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui sont aux portes de l'Église. Et puis, il remonte jusque dans le cœur pour, avec toute la ribambelle d'hommes aussi derrière lui, pour faire rentrer toute l'humanité avec lui dans le cœur. Donc, on a comme ce schéma circulaire-là dans le mouvement même du prêtre au début et à la fin de la messe.
Fait déjà un moment qu'on parle. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais mentionner sur la parabole? Je vois que tu as quand même quelques pages de notes.
Ouais, ben, sur la parabole, je pense que j'aurais autre chose, mais en fait, j'avais une question à te poser. Toi, quand tu abordes un texte, comment tu procèdes? C'est ça qui m'intéresserait à savoir. Comme, mettons, je te dis, là, ben, c'est ça, on va utiliser ce texte-là. Qu'est-ce que tu as fait pour te préparer là-dessus?
Ouais, ce que j'ai fait, je l'ai fait sur quelques jours, là, en fait. J'ai commencé par juste lire puis faire mes prières de temps en temps avec le texte. Puis les éléments que je vais regarder, disons, de façon plus consciente, c'est toujours si je peux voir des parallèles avec d'autres histoires que je connais dans la Bible. Justement, là, il y avait l'histoire des deux frères, par exemple, qui me venait tout de suite en tête. Les cochons, ça me fait toujours penser rapidement au bas de la montagne, aux païens. Puis une fois que j'ai quelques éléments comme ça, je peux placer un peu le texte dans une carte symbolique. C'est tout le temps le même genre de carte. Si, une coupe d'images de ça que Jonathan a vraiment comme dessiné, mais de façon abstraite, il y a toujours le même genre de structure où tu as, disons, le haut de la montagne, l'union avec Dieu, puis ensuite, dans les périphéries, ça va descendre jusqu'au bas de la montagne, puis là, tu peux imaginer que c'est comme avec toutes les malédictions de la Genèse, là, avec les épines, la mer, etc.
Comme si tu avais des clés d'interprétation haut, droite, gauche, haut, bas, centre, périphérie, puis tu essaies de. Ou des grands symboles forts, la
Exact.
croix, par exemple, puis tu essaies de les placer dans le texte.
Exact. Puis d'habitude, ça.
Avec l'a priori que tout texte devrait avoir plus ou moins fonctionné selon les mêmes schémas.
Exact, exact. Puis ça, d'habitude, ça va comme aller relativement rapidement aussi parce que une fois que tu l'as fait avec plusieurs textes, tu peux rapidement comme comprendre. Ah, ok, il y a deux frères. Sûrement qu'il y en a un qui c'est la gauche, un c'est la droite, comme tels exemples. Je sais que ça fait à peu près comment sur la montagne, etc. Fait que rapidement, je peux comme placer l'histoire sur comment ça se place dans la montagne.
Moi, c'est très diversifié, là, mais d'abord, je commence comme toi, c'est-à-dire lire le texte en prière, parce que je pense vraiment que l'Esprit Saint peut nous guider aussi, nous donner des lumières. Après ça, les parallèles, comme par exemple dans la Bible de Jérusalem, on est aidé, c'est-à-dire qu'on peut aller avec notre mémoire. Souvent, c'est à travers faire des associations de mots, d'images et de thèmes, mais les parallèles qui nous sont donnés dans les Bibles d'études peuvent nous aider. Après, moi, ce que j'aime, c'est vraiment référer à la tradition. Donc, c'est peut-être là la différence, c'est que moi, je vais aller me plonger dans la tradition. Puis par la tradition, je veux dire aller voir ce que les pères ont dit. Donc,
Ah, c'est vrai, j'ai
il y
oublié
a
de
par
dire.
exemple Bible chrétienne qui est accessible gratuitement sur Internet, sur clérus.com, je pense, qui fait comme une collection des pères. La chaîne d'or de Saint Thomas d'Aquin aussi, qui est une collection des pères pour les évangiles ici. Après, même dans le catéchisme de l'Église catholique, je pense que c'est une très bonne ressource. Il y a un index à la fin du catéchisme pour chaque verset presque de la Bible, ou en tout cas chaque passage, on donne tous les numéros qui évoquent ce passage-là. Donc là, ça nous plonge dans l'ensemble de l'enseignement de l'Église. Des fois, ça va nous amener vers la morale, des fois vers les sacrements, des fois vers la prière, vers le dogme, etc. Donc ça, moi, je trouve ça fort, fort intéressant. L'analyse des mots, l'analyse linguistique aussi, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a des mots qui se répètent? Des fois, l'étymologie des mots. Des fois, quand on va voir les mots en grec aussi, on réalise, ah, tel mot, ben, il se retrouve dans un autre passage. Puis là, on peut trouver des parallèles comme ça. Puis l'analyse, disons, ben, il y a l'analyse contextuelle. Donc évidemment aussi, voir qu'est-ce qui vient avant, après, ça se situe où dans le tout. Puis l'analyse plutôt narrative, c'est-à-dire que ça, souvent, ça va être avec l'imagination, c'est-à-dire d'essayer de refaire dans sa tête, d'imaginer la scène, puis là, on se rend compte de tous les trous, tout ce qui n'est pas dit dans le texte aussi, puis il y a une raison aussi, tu sais, dans le sens d'imaginer qu'est-ce qui aurait pu avoir lieu avant, après. Ça peut aider. Et finalement, moi, ce que je vais essayer aussi, c'est de trouver les causes, que ça approche plus Thomiste. Quelle est la cause finale? Quel est le but de ce texte-là? Donc, quel est le... Puis je vais essayer de le relier au grand but de tout le message chrétien. Mais après, il peut y avoir que ça peut être un but intermédiaire. Là. Chaque passage est pas... Bon, chaque passage, d'une manière, je pense, peut être relié au but ultime de la révélation. Mais donc, d'identifier c'est quoi le message principal ou central. Parce que ça se peut que moi, à cause qu'en ce moment, je vis telle situation difficile avec mon frère, la parabole me fasse penser à ça. Mais ça, c'est plus subjectif. C'est dans ma situation personnelle, ce qui n'est pas mauvais dans une analyse... dans une lecture divina plus personnelle, mais je pense qu'il faut vraiment toujours se demander c'est quoi c'est ça, la pointe du texte, le but. Voilà, moi, c'est un peu mon approche, mais disons que j'utilise beaucoup la tradition. Puis ce que j'aime beaucoup faire, c'est en parler avec des amis aussi. Parce que, mettons qu'on passe, on vient de le faire, mais mettons qu'on passe une heure avec un petit groupe de 4-5 amis, je trouve ça toujours extraordinaire, même après des années, ce que chaque personne dit. Puis je trouve que c'est une autre manière d'inclure l'Église dans l'analyse des textes, c'est-à-dire l'Église vivante, les gens d'aujourd'hui qui ont la foi, qu'est-ce qu'eux avec eux ont à nous dire sur le texte.
Non, c'est vrai, la tradition, j'ai oublié de la mentionner. Ce que j'aime bien faire ces temps-ci, c'est d'utiliser des LLM pour leur demander qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que les pères de l'Église disent là-dessus. Un truc que j'essaie des fois, mais c'est rare, ça donne
des... Tu peux même demander qu'est-ce que Jonathan Pageau dirait de ça, puis il est pas pire, ChatGPT.
dans ce cas-ci, c'était comme... Ça m'a rien donné d'intéressant que j'aurais pas déjà deviné, mais effectivement, à un moment donné, je pense que ça pourrait être bon. Surtout des figures peut-être que je connais moins, là, ça aurait
ça pu peut aller... donner des pistes, en
c'est
tout
ça,
cas.
C'est ça, c'est ça. Au moins des idées. Puis... Dernière chose, c'est vrai que ça vaut la peine de dire aussi de l'approche symbolique qui est important si des gens veulent l'appliquer aussi. Là. Donc, le danger, des fois, quand on voit des connexions symboliques en différents textes ou dans un même texte, là, c'est ça peut avoir l'air un peu superficiel puis pas rigoureux. Puis la façon habituellement d'éviter ça, c'est que si tu commences à voir un parallèle, disons, entre le fils aîné puis, le fils aîné, puis les pharisiens, puis le cadet, puis les païens, ben, je devrais être capable de trouver plusieurs aspects des pharisiens dans ce qui se passe avec l'aîné, puis plusieurs aspects de ce qui se passe avec le cadet chez les païens, puis ça devrait marcher. Puis si tu n'es pas capable de faire plusieurs ponts qui marchent pour vrai à ce niveau-là, ben, faut probablement laisser tomber l'interprétation. Mais c'est important à faire parce que des fois, il y a des gens vraiment qui partent sur des grosses chires. Donc, ça vaut la peine de le dire dans l'approche symbolique. Mais d'habitude, une fois que tu as bien la pyramide globale que j'ai mentionné tantôt, là, c'est pas si dur de comme, tomber sur des choses qui marchent vite puis tu vois que ça colle rapidement.
Ouais, mais de là, l'importance du credo, ou en tout cas de la tradition de foi d'Église, c'est que le concept d'analogie de la foi, c'est-à-dire que tout ce que tu découvres dans la parole de Dieu pourrait jamais contredire un dogme ou une vérité fondamentale de la foi. Ça doit s'harmoniser avec l'ensemble des autres vérités. Si tu arrives avec, je sais pas moi, tu lis la parabole du fils prodigue, puis t'en conclus que... Dans le fond, vaut mieux être pécheur parce que le fils cadet est mieux que le fils aîné. Ben tu retrouveras ça nulle part dans le l'analogie de la foi. Ça contredit plusieurs autres vérités de foi. Donc cette interprétation là ne peut pas être bonne. Donc c'est là l'avantage d'une église et d'une tradition, c'est que ça te pas que ça t'oblige à comprendre la parole d'une manière, mais ça te donne des garde-fous. Ça t'empêche de déraper. D'une certaine manière. Puis ça, c'est toujours le danger quand on... Puis c'est vrai dans l'étude de n'importe quoi, pas juste de la parole de Dieu. Quand on pense seulement seul, dans sa tête ou juste avec des livres, bon, avec des livres au moins, on est avec les auteurs, mais en tout cas, quand on... plus on est seul, plus on risque de déraper parce qu'il n'y a personne pour nous dire « ça marche pas ça ». C'est là l'avantage de la pensée en dialogue, de la pensée en groupe. Comme si aujourd'hui, tu avais dit une absolue aberration, j'aurais dit... Je pense que ça marche pas, ce que tu viens de dire.
Parfait. Bon, très bien. Je pense que c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé. J'ai appris plein de choses. Puis, notamment la façon dont nos deux styles d'interprétation s'articulent. Donc, je trouve que c'était un bon exercice. Merci beaucoup, Simon.
Merci à toi.
Merci à tout le monde. On se reverra la prochaine fois. Bye bye.